Et cette semaine, dans les conversations avec Daniel Abbé, le Moyen-Orient reste au cœur des négociations géopolitiques, l'Iran et le futur de Gaza. Voilà plein de sujets dont Blaise van der Linden s'est entretenu avec Daniel Abbé qu'on retrouve.
Daniel Abbé, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, évidemment, le Moyen-Orient reste le centre des manœuvres géopolitiques récentes. On parle beaucoup de l'Iran avec les États-Unis et Israël où on risque une guerre. Et puis aussi cette semaine, on a vu l'introduction du Conseil de la paix à Washington par Donald Trump et tous les hommes d'État présents dans ce Conseil de la paix où l'on a parlé du futur de Gaza. Quelle analyse tirez-vous de ces deux enjeux géopolitiques?
Ben oui, vous avez raison, le Moyen-Orient reste le centre, le théâtre principal d'activité géopolitique actuelle. Trump y consacre beaucoup de temps. Faut remarquer quand même qu'il est incité, Trump, à la prudence parce que le temps passe et sa popularité est en question. Les élections législatives de mi-mandat se profilent déjà et donc il doit arbitrer entre les considérations domestiques et les considérations internationales qui l'ont beaucoup mobilisé. Vous avez raison de mentionner l'Iran et Gaza ensemble parce qu'au fond, les deux questions sont très liées. Il s'agit des adversaires principaux de l'Occident aujourd'hui, bien sûr d'Israël, mais aussi des Américains, puis au fond de l'ensemble de l'Occident. Ce sont les deux moteurs les plus actifs de ce qu'on appelle l'islamisme. Mais je rappelle quand même que l'islamisme, c'est le mouvement totalitaire, le totalitarisme, qui est le plus dangereux de ce siècle, en fait. Et qui vise à étendre l'islam dans le monde. Je crois que malheureusement l'Occident n'en prend pas suffisamment conscience. C'est en tout cas la priorité de l'Iran depuis 50 ans, depuis l'objectif de domination de l'islam chiite n'a jamais varié. Et même après les frappes de juin 2025, l'année dernière, l'Iran reste mobilisé dans cet objectif. C'est aussi la priorité du Hamas. Qu'il faut jamais oublier, c'est la pointe émergée d'un iceberg qui est un iceberg islamiste, sunnite cette fois-ci, pas chiite comme pour l'Iran, et qui est celui des Frères musulmans, c'est-à-dire une organisation mondiale, non gouvernementale, et qui est présente dans le monde entier. Donc ces deux branches de l'islam, qui sont des frères ennemis, se réunissent et coopèrent contre l'ennemi commun, l'Occident. Et ces deux entités, ben, sont des fanatiques, c'est-à-dire qu'ils concentrent tout leur temps, toutes leurs énergies à cet objectif planétaire qui, au fond, oppose l'islam militant au reste du monde. Et malgré les défaites récentes de l'Iran et du Hamas, ces deux entités continuent d'espérer survivre, espérer se reconstruire et relancer leur agression sur l'Occident. Voilà un petit peu ce qui les unit et qui fait qu'on a raison d'en parler ensemble.
Alors justement, en marge de ce Conseil de la paix à Washington, Donald Trump s'est exprimé sur la situation en Iran. Il a donné 10 jours à la République islamique pour conclure un accord, sinon les choses allaient mal se passer selon ses mots à lui. Est-ce qu'on peut résumer avec vous la situation sur l'Iran?
Écoutez, c'est pas facile pour Trump de prendre la décision parce qu'il y a plusieurs considérations évidemment contradictoires. La première, c'est certain, il y a un consensus général dans le monde, du moins dans le monde occidental et le monde, disons, démocratique, pour souhaiter la fin du régime des ayatollahs, qui n'a cessé de menacer la stabilité de la région et même du monde entier. Puis surtout le massacre des émeutiers iraniens début janvier a été d'une telle ampleur qu'elle a activé un petit peu cette motivation du monde entier d'espérer voir chuter ce régime. Donc la pression pour une intervention extérieure n'a jamais été aussi forte. Mais les Américains, qui sont l'ennemi principal de l'Iran depuis la prise d'otage, hein, il faut jamais oublier que tout a commencé par une prise d'otage de l'ambassade américaine en 1978-1979, n'ont jamais cessé de vouloir faire tomber ce régime. Ils ont imposé des sanctions qui sont très dures, qui ont beaucoup affaibli l'économie iranienne, qui auraient été efficaces s'il n'y avait pas eu la Chine qui achète tout le pétrole iranien. Mais bon, les Américains sont partie prenante de l'espoir de voir tomber le régime. Trump 1 avait agi en sortant de l'accord d'Obama de 2015, et Trump 2, donc, lui, a décidé d'accroître la pression, mais il n'a pas encore décidé quoi faire. Il y a évidemment ces deux armadas qui sont en train d'être prêtes. Apparemment, la deuxième, celle du Gerald Ford, ne fait qu'entrer en Méditerranée, donc elle n'est pas encore totalement positionnée. Et puis, il y a une négociation. Alors, est-ce que cette négociation est une vraie négociation? Elle ressemble plutôt à un ultimatum, hein. En gros, les Américains disent, ou bien vous cessez ces trois activités qu'on estime que vous devez cesser, à savoir l'activité nucléaire, l'activité de développement des missiles et la fourniture d'armes et de support à toutes ces milices islamistes qui entourent Israël. Et contre cela, nous, on vous promet une non-attaque. Alors que les Iraniens, eux, leur objectif, c'est la suppression des sanctions qui les handicapent. Donc on voit qu'il y a, au fond, une négociation qui n'est pas vraiment engagée, et c'est plus une double ultimatum des deux côtés qu'on a. Au fond, tout peut basculer d'un moment à un autre. Peut-être même au moment où on se parle ce lundi, l'attaque a commencé. Au fond, les facteurs décisifs seront d'abord l'attitude des Iraniens. Est-ce qu'ils vont continuer à défier les Américains? Il y a aussi l'état de préparation des forces américaine, ça c'est une estimation logistique que nous n'avons pas. Il y a évidemment aussi l'évaluation des cibles, quoi attaquer, l'évaluation aussi de l'impact d'éventuels bombardements sur des installations militaires, sur le régime lui-même. La relation n'est pas évidente. Les Iraniens peuvent très bien accepter la destruction de toutes leurs installations militaires et rester au pouvoir, les ayatollahs restant au pouvoir. Et puis il y a aussi, pour Trump, l'impact sur l'opinion publique américaine, notamment sur sa base dite MAGA. Donc Trump c'est pas si facile pour lui de prendre une décision devant des considérations que je viens d'énumérer, qui sont souvent contradictoires. Pendant ce temps-là, la coordination avec Israël sur le plan militaire, elle est totale. Mais la motivation n'est pas la même, hein. Pour Israël, c'est un besoin vital, hein, c'est existentiel de mettre fin à ce régime, alors que pour les Américains, ils ont une vision plus large et des intérêts est différente, notamment vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Donc, tout ça explique l'incertitude actuelle et l'impossibilité pour les meilleurs experts de dire ce qui va se passer.
Pour conclure, Daniel, il nous reste 2 petites minutes. Justement, comment souhaitez-vous conclure ces conversations pour enclencher cette semaine géopolitique?
Bien, écoutez, d'abord dire que Gaza, on a bien vu qu'à Washington, on est décidé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la fin du Hamas militaire et la fin du Hamas politique, mais qu'on a décidé de laisser un petit peu de temps au temps. Je pense que ce sera la deuxième priorité. On peut vivre, et Israël est bien d'accord avec la situation actuelle où Israël surveille étroitement les activités du Hamas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'urgence, sauf pour les Gazaouis qui vont encore attendre assez longtemps pour une éventuelle hypothétique reconstruction. Et puis, cette fin de l'Iran, du régime des Mollahs, ouvre d'autres incertitudes. D'abord sur quel régime le remplacera. Donc ça, c'est une autre discussion pour nous une autre fois. Et puis aussi ce profil, si l'Iran ne devenait plus, ne restait plus l'adversaire numéro un d'Israël, des États-Unis et de l'Occident, une autre puissance qui commence à émerger avec des ambitions, au fond, de remplacer l'Iran comme source principale de domination régionale, c'est la Turquie. Ce Moyen-Orient bien compliqué, même avec la disparition du Hamas et le changement de régime en Iran, ouvrira la porte à d'autres interrogations et à d'autres menaces. Et Israël n'en a pas fini à gérer une situation qu'elle a appris à être toujours difficile, existentielle, mais sur laquelle elle a toujours su faire face. Donc menace, mais certitude qu'Israël saura résister.
Et on aura évidemment l'occasion d'en parler dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.